Merci beaucoup. Je vous propose de suivre, de vous donner la parole et nous poserons les questions secondairement.
Bonjour, merci de m'avoir sollicité pour venir partager avec vous un certain nombre de réflexions qui me tiennent à cœur depuis de plusieurs années, plus d'une décennie en tout cas. Comme il a été souligné, moi je suis sociologue, je m'intéresse aux questions d'accompagnement, en particulier les questions d'accompagnement de fin de vie. Alors pour me situer dans la ligne de conduite de Grégoire, il se trouve que je suis aussi bénévole en soins palliatifs depuis un certain nombre d'années. Donc ça me fonde à penser l'éthique de manière pratique, pour éviter de nous emporter dans des approches incantatoires que Grégoire a dénoncées par ailleurs. Alors si je suis ici, c'est parce qu'il y a une réflexion qui m'intéresse, c'est celle des parentés entre l'accompagnement de la fin de vie et l'accompagnement de la précarité. Il y a un certain nombre de points communs qui peuvent être étudiés, il y a aussi un certain nombre de singularités, de divergences. Alors je vais déjà essayer quand même de situer mon propos dans un paradoxe. La question de la précarité, c'est la question du rapport au temps. On a beaucoup parlé d'isolement, mais il me semble que fondamentalement, d'ailleurs étymologiquement, c'est d'abord une question de rapport au temps. Alors de mon point de vue de sociologue, nous sommes confrontés à une tension qui nous habite chacun. C'est celle entre une culture du moment qui nous invite à vivre dans l'immédiateté, dans un raccourcissement du temps, dans ce que le sociologue allemand Hartmut Rosa appelle l'accélération. Aussi, il faudrait que les choses se fassent tout de suite et très vite. Donc ça fait partie de notre quotidien. Nous sommes tous porteurs de cette culture. Il y a donc un raccourcissement du temps et en même temps, dans notre société, nous souhaiterions nous inscrire dans une forme de permanence. À savoir que notre société répugne aux ruptures, répugne à la perte. Nous pensons que la sécurité vient du fait que les choses sont établies dans une certaine forme de durée. Donc conserver sa posture, conserver son statut, voyez. Il y a donc cette redoutable tension qui nous habite chacun d'entre nous entre vouloir faire les choses très vite, tout de suite, instantanément, qui tient de l'immédiateté, et puis malgré tout les inscrire dans la continuité, ça voudrait dire que nous vivrions dans une répétition d'instants. Il y a un autre rapport à la durée que celui que soulignait Bergson il y a maintenant un siècle. Alors la précarité par rapport à ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la précarité, c'est pensé aujourd'hui comme facteur d'insécurité et donc, par extension, comme une des causes de l'isolement. Mais nous répugnons à la précarité. Vous voyez, nous avons une fascination pour l'immédiat et en même temps, nous répugnons à la précarité. Parce que la précarité est facteur d'insécurité. Alors ça, c'est la première tension que je voudrais mettre en avant parce que je trouve qu'elle n'a pas fini de nous faire réfléchir sur nos propres paradoxes à nous. Ce qui m'a intéressé dans l'approche précarité-fin de vie, c'est que nous avons autour de la fin de vie des gens qui sont confrontés à un raccourcissement du temps. C'est-à-dire qu'il y a une échéance qui s'est dangereusement rapprochée, et donc la permanence, la perspective est à très court terme. Et très souvent, ça ramène ces gens à quitter les projets, les projections, les espérances même, pour se recentrer sur l'instant présent et vivre de plus en plus dans un horizon rapproché, raccourci. Et de ce point de vue-là, il y a certainement un trait commun avec les gens qui sont en situation de précarité. Donc il y a dans ces deux situations une expérience non désirée, non préméditée, une sortie de la société, une sortie des projets qui propulse l'individu et le contraint à vivre l'instant présent. Et dans les deux cas, eh bien, c'est pas forcément très facile à vivre parce que forcément, nous nous situons en rupture par rapport au schéma culturel contemporain. C'est ça qui est facteur d'exclusion. C'est le fait que, en premier lieu, le rapport au temps n'est plus le même. Et d'ailleurs, on sait bien tous à quel point le malade dans sa chambre d'hôpital, archétype, est celui qui n'a pas le même rapport au temps que ceux qui rentrent dans sa chambre, que ce soit la famille ou que ce soit les soignants. Il y a donc une difficulté de se rencontrer du fait que ce rapport au temps est brutalement altéré. Pour autant, il y a une différence importante. Alors, le facteur de précarité amène un facteur d'insécurité, amène un facteur d'isolement et appelle une réponse. Voyez, et cette réponse vient de plus en plus sous la forme d'un accompagnement, pas simplement d'une action, fût-elle soignante, fût-elle compétente, comme ça a été rappelé, mais il y a une attente de quelque chose de plus, qui est de recréer du lien pour signifier à les personnes qu'elle n'est pas aussi déracinée, aussi isolée. Mais cet accompagnement n'a pas forcément la même visée. Quand nous sommes confrontés à des gens qui sont en grande précarité, eh bien, l'idée première, c'est d'essayer de faire cesser cette précarité. Cette précarité est vécue comme une souffrance, vécue presque comme un mal, vécue comme étant une des causes de l'exclusion. Il y aurait l'idée immédiate qu'on pourrait tenter d'apporter une réponse qui viendrait réduire cette précarité et peut-être permettre aux gens de retrouver une place dans la société. Faire cesser la précarité parce que c'est un facteur vécu comme périlleux. Alors ça met en place des accompagnements qui sont orientés vers une certaine forme de resocialisation, de résultat, une action, vous voyez, des protocoles peut-être, une compétence, une expérience. Parce que le chômeur a vocation à retrouver un travail. Parce que le malade a vocation à retrouver la santé. Parce que la personne qui se retrouve en situation de fragilité affective, sa famille a été fracassée, a quand même vocation à retrouver une vie affective. Parce que l'immigré a vocation à s'insérer. Donc il y a cette forme d'accompagnement qui est un accompagnement qu'on peut qualifier de relativement directif dans l'esprit. Aider la personne à retrouver sa place. C'est l'étymologie même du mot assister. Assisterer, c'est mettre une dynamique pour aider à retrouver sa place. Alors ça, vous voyez qu'on est dans une conception de l'accompagnement qui est quand même une représentation assez directive, où par hypothèse, il y aurait quelqu'un qui saurait ce qu'il faut faire, qui aurait des ressources et qui aiderait quelqu'un qui est en situation de besoin. Mais on voit bien que, comme la maladie d'ailleurs, de plus en plus, la précarité a tendance à devenir chronique, à s'installer et à devenir une situation durable. Paradoxalement, la précarité devient une situation durable. Alors que devient l'accompagnement quand finalement on mesure que, bien, il est fort peu probable qu'on permettra à cette personne de se réinsérer complètement, que le SDF a de bonnes chances de rester SDF encore un paquet de temps. On ne peut plus rêver qu'on le remettrait à sa juste place dans la société, qu'on l'aiderait à retrouver. D'ailleurs, on s'étonne quand un SDF retrouve du travail. Il apparaît comme l'exception, finalement. L'exception. Alors que ça devrait être la pente normale. Alors que devient l'accompagnement dans cette circonstance ? Eh bien, c'est un accompagnement qui est amené, de fait, à se détacher d'une certaine projection, à se détacher d'une certaine idée du bien pour l'autre, à se détacher d'une idée qu'on pourrait corriger sa situation. Et l'accompagnement plonge dans une pointe de plus en plus fine, et il se justifie par lui-même. On en vient à accompagner, non pas pour corriger, mais simplement pour accompagner. Alors là, nous avons un parallèle très étroit avec l'accompagnement de la fin de vie. Parce que la fin de vie, dès lors que la personne est déclarée comme étant en situation de maladie incurable, eh bien, on peut se mentir, hein, mais on connaît les mécanismes de déni. D'une manière générale, quand on veut regarder la réalité en face, on sait que cette personne-là, eh bien, elle est amenée à faire une expérience qu'on ne pourra pas lui éviter. Et donc, l'accompagnement de la fin de vie, les soins palliatifs ont petit à petit, ça n'a pas été immédiat, mais petit à petit, ont mis en évidence des préceptes, une éthique de l'accompagnement qui ne cherche pas à corriger une situation. Bien sûr, les soins palliatifs ont vocation à soulager la douleur, et dans ce registre-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la nécessité de s'appuyer sur une compétence, nécessité de s'appuyer sur une formation. Parce que là, il y a des actions à entreprendre. Mais pour ce qui est de l'acceptation possible de la mort, eh bien, les soins palliatifs ont aussi fait un bout de chemin, puisqu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ils avaient encore dans l'idée qu'on pouvait aider un malade à mourir dans la sérénité, et puis qu'ils se sont bien rendus compte que c'était une idéologie, que c'était une forme d'utopie, que bien sûr, il faut espérer viser ce résultat. Il faut espérer que la personne trouvera des lieux d'apaisement. mais que dans la réalité, dans la majorité des cas, bien, les gens meurent comme ils peuvent. Et donc, les soins palliatifs ont aussi fait ce cheminement d'acceptation des limites même de l'accompagnement, c'est-à-dire que l'accompagnement doit se déprojeter, doit se dissocier de l'idée qu'on pourrait atteindre un certain résultat pour se nourrir que l'accompagnement se justifie par lui-même. Et bien, c'est là qu'en réalité, l'expérience nous montre qu'on est le plus créateur de liens. Ce n'est pas quand on essaye de faire rentrer quelqu'un qui est exclu dans un système culturel, dans un système social ou économique avec lequel il restera peu ou prou en porte-à-faux. Là où l'accompagnement est créateur de liens, c'est en ce qu'il vient rejoindre la personne là où elle est. Non pas pour l'y maintenir, mais sans l'illusion qu'on pourrait l'en extraire de force, avec l'espérance toutefois qu'on pourrait l'en extraire aussi. C'est extrêmement paradoxal. Et si c'est paradoxal, il y a forcément des tas de questions éthiques fascinantes, profondes derrière. Comment espérer que cette personne retrouvera une place dans une société, une place saine, et en même temps, si on sent bien qu'elle ne peut pas le faire, comment pour autant rester là pour lui signifier qu'il y a du lien, que cette personne compte en tant que telle et non pas à raison de son statut. Alors j'ai bien aimé ce que dit Grégoire sur ne rien tenter, c'est pas la même chose que ne rien faire. Être là, c'est tenter quelque chose, tenter, sans vouloir à tout prix obtenir un effet, sans chercher à tordre le cou de la réalité. Donc, dans cette évolution de la notion d'accompagnement, eh bien, l'accompagnement des gens en grande précarité ou l'accompagnement des gens en fin de vie se rejoignent. Parce que vous voyez qu'on est descendu d'un cran, on est rentré un peu plus profondément. Alors d'un point de vue valeur, d'un point de vue paradigme, ça nous invite à quelque chose qui est totalement anachronique avec les valeurs dominantes de notre société, qui sont fondées sur l'efficacité, qui sont fondées sur la performance, qui sont fondées sur l'evidence-based médecine ou autre d'ailleurs. C'est-à-dire que nous devons être capables de démontrer, de faire la preuve de l'efficacité de ce que nous mettons en place. Bien là, il n'y a pas d'efficacité à mesurer. Il y a juste une qualité de présence signifiée d'une personne à une autre. Pour dire, tu n'es pas à part. Voilà. Alors c'est sûr, tu n'es pas tout à fait dans les canons contemporains. C'est d'autant plus difficile quand soi-même, on apparaît aux yeux de l'autre comme étant dans les canons contemporains. Quand on arrive et qu'on est un médecin bien formé, bien installé dans la société, ou une assistante sociale, ou n'importe quel profil, même si on est de la famille et qu'on est en bonne santé ou qu'on est bien inséré dans la société, on est forcément à distance de celui qu'on prétend accompagner. Parce que lui-même nous perçoit comme étant à distance de lui, vu que nous occupons une position qu'il n'occupe pas ou plus. Donc la difficulté éthique, ça n'est pas d'amener l'autre à notre niveau, à rejoindre notre posture, c'est de faire cet effort d'aller rejoindre l'autre en faisant autant que possible abstraction de notre posture à nous, de notre statut à nous. Et à partir du moment où on l'a rejoint, alors il y a quelque chose du cheminement qui se remet, qui redevient possible. L'isolement, c'est une manière d'être figé. C'est une manière d'être, à un moment donné, cristallisé dans sa vie. Ne plus pouvoir se mettre en route. Donc l'accompagnement, au sens étymologique, tout simplement, ça consiste à aller prendre la main de quelqu'un et à se mettre en route. Là où c'est totalement anachronique aussi, c'est parce que c'est une posture qui repose sur une impuissance assumée. Puisque nous renonçons à l'idée que nous pourrions amener l'autre à se réinsérer, même si nous conservons, j'insiste, l'espérance qu'il pourrait se réinsérer. Donc ça, c'est quand même une vertu positive de conserver cette espérance pour lui. Mais aborder la relation en renonçant qu'on pourrait le réinsérer, c'est assumer qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc on vient, mais au moins on est là, on ne prend pas ses jambes à son cou pour dire « je ne peux rien faire, donc je m'en vais ». Oui. Alors, cette posture assumée de l'impuissance, vous voyez qu'à quel point elle est à contre-courant de la société moderne, qui ne valorise que les excès de puissance, que ce soit dans le domaine technologique, la puissance est l'instrument de mesure de nos outils aujourd'hui technologiques, mais que ça soit aussi dans les postures psychiques. J'ai besoin d'être puissant, dans le domaine professionnel, dans le domaine sexuel même. Hein. Il y a toute cette posture-là qui est la valorisation, l'ultra-valorisation de la puissance. Eh bien, l'accompagnement, c'est l'inverse. C'est justement en cela que ça devient éthique, c'est que ça nous amène à renoncer à faire le clair, la lumière en nous-mêmes sur nos tentations de puissance et à explorer des postures d'impuissance, mais aussi d'ignorance. Vous voyez, il y a une deuxième clé éthique derrière, c'est l'ignorance. Je ne sais pas où il veut aller, je ne sais pas ce dont il est capable. Hein ? Je ne vais pas le guider là où moi je pense que ça devrait être juste. Posture d'impuissance, posture d'ignorance, donc difficile, hein ? Extrêmement difficile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la relation d'accompagnement, j'ai aimé cette remarque ce matin du docteur Kautar qui disait « La précarité met le médecin au défi. » Mais le défi, il est aussi là. Il est dans la capacité à assumer que, certes, nous avons tous quelque chose à faire, vous en tant que professionnel, moi d'ailleurs aussi en tant que bénévole, on a tous quelque chose à faire, mais il y a un deuxième défi qui est d'explorer une dimension où il n'y aurait pas grand-chose à faire, en dépit du fait que nous savons qu'il y a quand même des tas de choses à faire. Alors là, on est au cœur de la contradiction, du paradoxe. Hein ? Il y a des choses à faire, mais en même temps, il faut être dans ce qu'on a à faire, il faut être capable de renoncer à nos projections. Vous voyez le grand écart intellectuel, psychique que ça demande. Hein ? Parce que si nous restons simplement dans la polarité de nos projections, il n'y a qu'à faire comme si, alors nous sommes... il me reste quoi ? 2, 3 minutes, 5 minutes ? Il n'y a pas de problème. Oui. Si nous n'investissons, alors ça c'est un propos sur lequel je termine qui me paraît essentiel, si nous n'investissons que la dimension action, je vais faire des tas de choses, alors nous ne sommes plus simplement, nous escamotons une part de la dimension éthique. Nous allons bien sûr investiguer la dimension éthique dans comment faire éthiquement ce que j'ai à faire. Mais nous escamotons la dimension éthique de la relation. Et il y a une éthique de la relation. Cette dimension interhumaine. Il y a une éthique profonde de la relation. Si, à l'inverse, nous sublimons la dimension savoir-être en nous disant, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, alors dans ce cas-là, on va se contenter d'être là et puis d'être gentil, quoi, ou d'être dans la sollicitude. Alors nous escamotons la responsabilité de devoir agir aussi. Voyez ? Et on n'aide personne en le laissant sans soin. Mais sans espérance de faire quand même changer les choses. Donc il y a une contradiction fondamentale, et donc s'agissant d'un paradoxe, il y a une part de vérité fondamentale aussi, dans le fait de trouver cet équilibre entre ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à être. Et ce n'est pas l'un et l'autre, c'est comment je parviens à être pleinement quelqu'un d'accueillant, d'attentionné, en dépit du fait que j'ai des choses à faire. Donc moi, ça m'amène à définir l'accompagnement. J'ai beaucoup essayé de creuser la question parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de définition de l'accompagnement. J'ai cherché un long moment. Et mon expérience de bénévole, hein, pas les cogitations, l'expérience de bénévole m'a amené à définir l'accompagnement comme étant une manière d'être dans une manière de faire. Voilà, c'est ça qui me semble le plus urgent à essayer d'investiguer. Une manière d'être dans une manière de faire. C'est pas tantôt je fais, tantôt je suis. Parce que sinon, on va finir par dire que les médecins font et que les assistantes sociales, les bénévoles, les amis, les voisins sont. Il y aurait d'un côté ceux qui feraient, de l'autre côté ceux qui seraient. Vous voyez ? Ça, c'est complètement absurde. En fait, chacun a quelque chose à faire et dans cette posture où il a quelque chose à faire, comment faire en sorte d'être là, sans projection, donc sans violence à l'égard de l'autre ? Hein ? Vertigineux, il y a une communication qui utilise le terme de funambule. Pour moi, l'accompagnement, c'est du funambulisme, clairement. C'est du funambulisme assumé. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, l'accompagnement ne repose pas simplement sur la bonne disposition, la bonne volonté, la gentillesse du cœur et tout ça. Il y a des gens qui ont une disposition naturelle à accompagner. Mais tout le monde a la capacité d'accompagner. Ça veut dire qu'il y a une nécessité de se former aussi à l'accompagnement. Ça devient une compétence, non pas technique, mais une compétence humaine. Alors j'en viens au dernier point qui me paraît peut-être le plus important, c'est qu'en réalité, il y a aussi une dimension systémique et même renversante au fait d'accompagner. C'est le fait que quand on accompagne quelqu'un et qu'on se met à son niveau, qu'on se déshabille soi-même d'un certain nombre de choses, qu'on se dépouille, qu'on se dénude pour pouvoir se rendre rejoignable, pour pouvoir se rejoindre l'un l'autre, Alors on découvre qu'en réalité, au bout d'un moment, on ne sait plus très bien qui accompagne qui. Il y a un renversement fascinant. Et on découvre que l'accompagnement est en tant que tel une action de soin. Le seul fait d'accompagner fait soin à la fois pour celui qu'on prétend accompagner, celui à qui on prétend venir en aide, mais aussi pour celui qui accompagne, parce qu'il nous invite dans des espaces, dans des découvertes, dans des abandons, dans des détachements qui sont à contre-courant de notre société contemporaine, cette société de la performance, et qui sont pourtant facteurs de santé. Parce que vous n'allez pas me faire dire que vous êtes tous à l'aise dans le diktat de la performance. Voilà. J'ai entendu ce matin un grand nombre de réactions à chaque fois qu'on disait qu'il faut remettre l'humain au sens, au cœur du soin. Oui, clairement. Parce que c'est ça le soin. Le soin, ce n'est pas juste une compétence. Voyez. Donc, on découvre à partir de ça que toute la logique d'accompagnement, elle est santé et elle est société. Ce qui est société, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pensé de cette manière-là. Non pas sur un mode paternaliste, où je sais ce qui est bon pour toi, mais pense sur un mode plutôt de on va dire fraternel, hein, pour utiliser un grand mot qui mériterait beaucoup, beaucoup de précision, parce que c'est un mot tarte à la crème sinon, mais sur un mode où on est au même niveau que l'autre. À la limite, vous avez une mission, il n'en a pas, mais il y a un terrain où on se rencontre indépendamment de nos statuts, de nos compétences. Donc il me semble qu'en cela, accompagnement de la précarité, accompagnement de la fin de vie, nous amène à explorer une posture, et d'un mot qui va vous parler, une posture d'alliance. C'est un mot qui peut avoir des résonances diverses. Bien sûr, dans le domaine médical, il a une résonance forte, mais une résonance qui est en même temps en évolution. La loi de 2002 qui place l'autonomie du sujet sur le devant a fait évoluer considérablement les représentations de cette relation d'alliance. Vous voyez, chacun a plus voix, enfin le patient a plus voix au chapitre que préalablement, et ça déborde, cette réflexion déborde le champ du soin. On est ici ministère des Affaires sociales et de la Santé, ça déborde le champ du soin. Le Conseil supérieur du travail social en 2007 disait que la posture d'accompagnement dans le champ social est une posture d'alliance. Ça va toucher désormais le champ de l'éducation. Les enseignants, vous voyez bien, en regardant l'actualité, à quel point les enseignants sont déstabilisés dans l'exercice de leur métier. Ils ne savent plus très bien s'ils sont les papas de substitution ou s'ils sont des coachs. Eh bien, les enseignants eux-mêmes sont rattrapés par ça. Et quand on regarde un peu plus loin, les surveillants de prison sont eux-mêmes rattrapés par ça. Donc, en réalité, nous sommes sur un basculement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe et académicien Michel Serres qui dit que ces représentations, ces quêtes, ces questionnements auxquels là, nous souscrivons autour de la vulnérabilité annoncent une rupture anthropologique. Alors c'est violent, c'est ambitieux. Grégoire a parlé de questions de civilisation. Considérer la fragilité, et pas la faiblesse, c'est pas le même concept, la fragilité aujourd'hui comme une valeur, comme une richesse, il y a des tas de réactions, de réflexions émergentes sur ce sujet dans tous les champs de la société. Et vous, en particulier, alors vous êtes vraiment aux premières loges de l'observation de ce phénomène et même de la promotion de ce nouveau paradigme. Donc il y a quelque chose qui est en train de basculer. J'ai bien entendu que vous avez tout un tas de difficultés pour remplir des grilles, pour faire remonter de l'information. Je ne sais pas encore comment on peut faire remonter ce savoir-être, cette qualité de la relation, cette possibilité d'établir un lien qui soit une forme de rencontre avec l'individu dans des tableaux Excel. Je ne crois pas que ça passera par le tableau Excel. Je pense que ça passera par le contact direct, le témoignage qui emporte l'adhésion de gens avec lesquels vous serez en lien dans vos institutions ou dans des locales ou dans les grandes institutions nationales. Petit à petit, le changement vient par capillarité. Il vient du fait qu'il y a des discours qui touchent, il y a des discours qui transforment. Et à partir de ça, on peut espérer que dans quelques années, on regardera nos débats d'aujourd'hui comme étant des débats qui ont amorcé un changement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Tanguy Châtel et Grégoire Moutel pour vos communications pour replacer l'importance donc de la relation humaine et donc de l'accompagnement dans le soin. Valeur qui n'est pas quantifiable, qui est réelle et qui revient au centre des réflexions de beaucoup de thèmes de société. et qui sont mis en exergue en particulier chez les populations vulnérables. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Ici, à gauche.
Devant à gauche.
Devant à gauche.
Merci. Gérard Lévy, je suis médecin, je suis ancien doyen de la faculté de médecine de Caen. Je ne dis pas ça par immodestie, mais pour vous expliquer la suite de mes commentaires. Monsieur Moutel, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, plein de choses que je partage. Il y a une chose qui m'a un peu dérangé, c'est que quand vous avez parlé de la loi de 2002, vous dites que ce sont des incantations qui n'aboutissent pas à des résultats. Alors, vous avez en partie raison, mais si je vous disais que je suis doyen ou que j'étais doyen, c'est pour souligner qu'on ne parle jamais, dans toutes les assemblées où je vais, de l'importance des études de médecine. Parce qu'on dit « il faut savoir faire, il faut savoir être », or les études de médecine sont cristallisées sur le savoir, et non pas sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Et tant que les enseignants, vous avez peut-être eu des enseignants fabuleux, mais ils se comptent sur le bout des doigts, les enseignants fabuleux, dans ce domaine dont on parle. Donc tant que les enseignants n'auront pas pris à bras-le-corps ce problème et n'enseigneront pas des aspects des sciences sociales et humaines, on peut continuer à disserter, à disserter, à disserter. On sera dans une société bloquée de médecins qui ne voient pas au-delà de la technique. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Je voudrais faire une deuxième remarque pour M. Châtel. Vous comparez, à juste titre, l'accompagnement des précaires et l'accompagnement en soins palliatifs. Je voudrais simplement poser une question, parce que les soins palliatifs, c'est une chose merveilleuse, mais réservé à une toute petite partie de la population, et on n'y réfléchit pas non plus suffisamment à cela. Et combien de précaires bénéficient des soins palliatifs quand ils sont en fin de vie ? Donc la comparaison est intéressante, mais il y a quand même une césure dans cette comparaison du fait que les précaires ne bénéficient pas des soins palliatifs. Merci.
Oui, je voudrais apporter un complément d'information. Alors, les soins palliatifs, il faut bien comprendre qu'ils sont nés de la prise en charge de la question de la fin de vie, mais aujourd'hui, ils ont vocation à déborder largement. Et de moins en moins, on parlerait de soins palliatifs pour parler de culture et de démarche palliative qui a vocation à gagner d'autres champs de la santé, mais aussi d'autres champs de la société. Avec des applications, c'est-à-dire que ce qui a été identifié en soins palliatifs peut être décliné autrement dans le travail, dans le monde du handicap, par exemple. C'est pas la même manière de penser cet accompagnement. Parce que les soins palliatifs ont révélé quelque chose de l'accompagnement. Donc, ne réduisons pas les soins palliatifs à la dimension terminale. Deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a trop peu de gens qui bénéficient aujourd'hui de soins palliatifs, et encore moins parmi les personnes en situation de précarité. Alors c'est pour ça que je signale, et ça vous sera d'ailleurs indiqué cet après-midi, les travaux à venir de l'Observatoire national de la fin de vie, dont je fais par ailleurs partie, puisque l'Observatoire travaillera en 2014 sur la question précarité et fin de vie. Vous voyez, nous avons identifié cette thématique. En 2012, nous travaillons sur domicile et fin de vie, en 2013 sur vieillissement et fin de vie, en 2014 sur précarité et fin de vie. Donc à cette occasion, Régis Aubry vous en parlera cet après-midi, il y aura effectivement des travaux communs, des points de rencontre sur ces sujets-là. Voilà.
D'autres questions ?
Moi je voulais intervenir, mais vous avez en partie repris ce que je voulais dire. Bon, moi je suis Brigitte Tapp, je suis assistante sociale à la Riboisière. Et effectivement, je vous remercie de votre intervention parce que ça m'a peut-être un peu éclairée aussi sur ma démarche professionnelle et éthique. À savoir, je suis assistante sociale auprès de la PASS, mais je suis également à 25% assistante sociale auprès de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et quelque part, ça m'a permis peut-être de bien cerner ce qui fait que dans ces deux types d'accompagnement, effectivement, qui se rejoignent, etc. Et je voulais simplement, effectivement, préciser ce que monsieur vient de dire précédemment, à savoir qu'effectivement, en travaillant dans les deux aspects, effectivement, les personnes précaires qui sont prises en charge en soins palliatifs sont encore plus précaires et ont encore plus difficilement accès aux soins palliatifs. Là, il y a vraiment des difficultés, mais bon, comme vous avez en partie repris, mais je voulais juste apporter mon témoignage.
Merci.
Et puis, je vous remercie, puisque effectivement, je me rends compte que peut-être dans ma démarche, ce n'est pas un hasard. Merci.
Allons-y. Est-ce que par respect, par intérêt, je peux répondre à M. Lévy à la question précédente? D'abord, merci beaucoup, surtout que je fais partie de ceux qui connaissent votre parcours. Mais je dirais très rapidement, je ne veux pas centraliser le débat sur les facultés de médecine, que votre discours et mon discours sont aujourd'hui fortement minoritaires et que vos collègues doyens actuels mériteraient peut-être de vous entendre un peu plus souvent, en particulier dans la grande faculté de médecine où je suis. Et c'est une vraie question que vous posez, je vais élargir au contexte de ce colloque, ça dépend de quelle éthique on enseigne et de si on parle ou non d'une éthique pratique ou d'une éthique appliquée ou d'une éthique incantatoire. Et je fais partie d'une école qui, même si elle était partie sur des fondements d'éthique appliquée, dévie depuis un certain nombre d'années vers l'éthique incantatoire et institutionnelle. Et je pense qu'il faut le dire aussi. Et plus largement, pour la journée d'aujourd'hui, la question que vous posez dans la reconnaissance à travers la formation, pour moi, c'est une reconnaissance institutionnelle, justement, de ce qu'on dit, de ce savoir-faire, de savoir-être, de cet interhumain. Donc, ce n'est pas former uniquement pour former et donner des guidelines et standardiser les esprits, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais c'est aussi reconnaître cette dimension-là dans la formation qui, d'un point de vue institutionnel et politique, est majeure. Et donc, ça touche les assistantes sociales, ça touche les médecins, ça touche les IFSI pour les infirmières. Et voilà. Donc, c'était important de recontextualiser ça. Quant à la loi du 4 mars 2002... Je suis un des grands militants du droit des patients, de la genèse du lien avec le monde associatif. Quand j'ai dit, de manière un peu trop rapide, je conteste, c'était plutôt une souffrance par rapport à un niveau d'exigence. Bien sûr que ça a apporté un plus, bien sûr que c'est positif, mais il faut savoir qu'il y a des exclus de la loi du 4 mars 2002, ça a été dit tout à l'heure. Nos patients n'ont pas de représentants des usagers. Donc cette loi a eu des vertus positives dans plein de domaines de la démocratie sanitaire, mais du coup met en exergue aussi tout ce qui reste à faire. Voilà. Merci beaucoup.
Oui, je vous en prie.
Bernard Elgoisi, deuxième. Je rebondis sur la question qui est abordée par le doyen Lévy et par Grégoire. C'est que la question de la formation des professionnels est une question essentielle. On a été une minorité à travailler dessus, mais elle est toujours d'actualité de travailler sur la relation à l'autre, sur l'altérité, sur la reconnaissance de l'autre, sur l'acceptation de l'autre comme il est et pas comme j'ai envie qu'il soit, et mettre ça dans nos facultés de médecine, ça serait pas mal. Mais trois petits points. Là, je me situe du côté des professionnels. Maintenant, je vais du côté des usagers, citoyens, malades, des gens qu'on voit et pour lesquels on essaye de répondre aux besoins de santé. Le problème, là, c'est plus un problème de formation, mais d'information. Grégoire le disait il y a quelques instants. Ils ne sont pas acteurs de la mise en œuvre de la loi du 4 mars sur les droits des patients. Et pourquoi ils ne sont pas acteurs ? Parce qu'une grande partie de cette population n'a pas accès à l'information. Et qu'on a compris, qu'on sait depuis longtemps, que les grandes campagnes de prévention, eh ben, elles éloignent encore plus les gens qui ne sont pas dans l'accès à l'information. Il y a eu le rapport de Jean-Paul Moiti, il y a 2 ans, je crois, là-dessus, et quelques autres, on sait tout ça. Et que la question, c'est comment les intégrer, et pas les prendre en charge, mais leur donner les moyens de devenir sujet de leur propre prise en charge. C'est bien. Alors, c'est pas un débat très simple, hein, mais c'est quand même un débat qu'on peut pas ne pas se poser sur l'accès à l'information de ces publics qui sont en dehors des circuits, en dehors d'abord des circuits, j'aime insister, de santé et pas seulement de soins, parce que vous parlez beaucoup de soins, mais je pense qu'on est quand même dans un champ qui est celui de la santé au sens large, intégrant la promotion de la santé, l'information des usagers, la prévention, etc. Comment leur rendre la possibilité d'être acteurs de leur propre histoire? Et le premier... La première entrée, c'est l'accès à l'information des publics et des gens et des personnes qui sont en dehors des circuits d'information habituellement. Merci.
Bonjour, je suis Madame Rollin, donc je suis assistante sociale à l'hôpital de Saint-Dizier en Haute-Marne.
J'interviens sur la passe, mais aussi sur le reste de l'hôpital, notamment sur la gériatrie. Je voulais revenir un petit peu sur les propos du parallèle entre les soins palliatifs et la précarité. Moi, je pense que globalement, dans notre société, on n'est pas assez sensibilisé, que ce soit à la fin de vie ou à la précarité. Mais on parle depuis tout à l'heure de la formation des professionnels, mais aussi de manière globale au niveau familial, éducatif et personnel. La plupart des gens que je vois sont très mal à l'aise par rapport à la fin de vie, mais aussi à la précarité. Ça nous renvoie, je pense, à notre propre fragilité, à ce qu'on pourrait devenir, et ça ne nous plaît pas forcément. Donc ce qui freine aussi, je pense, beaucoup la prise en charge globale, médico-sociale, parce que ça nous renvoie à notre propre devenir, si j'ai envie de dire. Donc il y a aussi tout ce côté-là dont on n'a pas évoqué, mais je pense que c'est aussi très important, parce qu'au-delà d'être professionnel, on est aussi humain.
Ouais, à notre image, enfin, et puis à notre impuissance, enfin, accepter qu'il y ait quand même un projet, même dans l'impuissance, entre guillemets, puisque le but, la fin, ça sera peut-être pas de réparer, de réussir à remettre quelqu'un d'aplomb ou tout droit dans la société. C'est accepter justement que ça se passe à ce moment-là, avec cette personne-là, avec les moyens et la compétence dont on dispose, et puis son histoire.
Ce que je voudrais rajouter, pour compléter un peu le propos de tout à l'heure, c'est que le domaine de la fragilité, le domaine de la fin de vie, le domaine de la dépendance, le domaine du handicap, le domaine de l'exclusion sociale, tous ces champs-là sont à la fois des révélateurs que quelque chose est en train de changer dans nos représentations, dans nos paradigmes ou représentations collectives. Que nous ne nous contentons plus et de moins en moins de représentations de surhomme, voilà, ou d'être hyper performant et finalement assez insensibilisé. Vous voyez, il y a même en sous-jacent toute une tentation d'aller vers l'insensibilisation. Tous les débats autour de la sédation sont aussi porteurs de cette idée que voilà, un être humain qui souffre, c'est pas bien, mais jusqu'à aller à l'insensibiliser complètement. Moi, je ne peux que m'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui serait devenu totalement insensible. Donc il nous faut assumer notre part de sensibilité, puisque c'est notre richesse. Donc ces terrains-là que j'ai cités sont à la fois des révélateurs que quelque chose est en train de changer et en même temps des laboratoires où s'inventent des nouvelles attitudes. Et ces attitudes ne sont pas que des attitudes professionnelles, et vous avez raison de le souligner, ce sont des attitudes qui nous touchent chacun en tant qu'être humain d'abord et qui feront qu'ensuite, dans nos registres professionnels, nous agirons différemment. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que nous serons touchés en tant que professionnels que nous serons plus humains. C'est d'abord parce que nous sommes touchés en tant qu'êtres humains que nous pouvons poser des actes ensuite éthiques et, enfin, ou différents.
Je peux donner un petit complément de réponse à ce qu'a dit madame. Il y a un très beau papier d'un collègue québécois qui s'appelle Albert Dunon, qui a dit que tout ce que vous avez dit, ou moi ce que j'ai pu dire, sont des éléments de compréhension, mais qu'il faut faire attention que ça ne devienne pas des éléments de justification. Et qu'il pose dans la démarche éthique que la question de la prise de conscience est l'élément d'élévation des âmes que j'évoquais tout à l'heure. Alors bien sûr, c'est un chemin complexe et vertueux, mais un des dangers de notre société, c'est de se dire effectivement ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est compliqué, puisque ça nous renvoie à des peurs, puisque hein, le danger, c'est la fermeture de la porte. Et ce qui va nous donner plus d'humanité, c'est de la réouvrir. Donc en deux mots, ce que vous dites est juste, il ne faut surtout pas le nier, ce serait terrible de le nier, mais c'est là-dessus qu'on doit travailler.
Moi, je voulais. Excusez-moi. Donc, Sylvain Assillon, je suis cadre de service social dans un hôpital de service public, un ESPIC, donc catholique, mais service public. Donc, nous avons beaucoup de chance d'avoir un centre d'éthique médicale et qui vient nous aider dans nos pratiques professionnelles. Pour être vraiment très concret, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été dit de très important ce matin, c'est ne pas rester seul. Voilà. Ça, ce que vous dites. Michel Serres l'a dit également dans son livre « Le tiers instruit », c'est le métissage. Donc on a tous des formations différentes. On n'a jamais retiré la relation sociale des formations paramédicales, médicales et sociales. Et je pense que on n'invente pas, c'est quand même depuis très longtemps que ces formations existent de cette manière-là. Et c'est ce qui change aujourd'hui. On entend beaucoup, en tout cas au niveau de management, de coproduction, de co-élaboration. Et je pense que cette interdisciplinarité, cette façon de travailler dans les organisations, bien sûr, il faut être une volonté aussi de vouloir travailler comme ça, cette façon de travailler permet aux personnes de se parler. Et au niveau éthique aussi, nous avons mis en place des intervisions éthiques. Toutes ces situations qui ont été rappelées là ce matin, on a la possibilité de saisir le centre éthique médical sur des situations concrètes où toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin ou pas touchées du tout, le secrétaire aussi peut venir s'installer à table avec nous et discuter de nos regards sur les situations. On ne s'en sortira qu'à partir du moment où on croise nos regards pour simplement dire chez l'autre, il le voit autrement la situation. Et là, dernièrement, mardi prochain, nous aurons une réunion avec le directeur qui, à un certain moment, dans une situation, a dû intervenir. Et ça se discute et ça se parle. Donc, ce n'est pas forcément l'éthique, comme on l'a dit aussi ce matin, dans les passes. Il y a la concrétisation dans une organisation et dans des outils également. Ce n'est pas seulement un fait d'esprit et dans les livres. Je crois qu'il y a aussi des volontés institutionnelles lorsqu'elles se mettent en place. Et il ne faut pas non plus révolutionner dans l'organisation. On peut faire des petites organisations. Moi, j'ai beaucoup aimé le changement par capillarité. Petites organisations, à partir d'une situation, même si à 10 on se rencontre, on permet un certain moment de croiser nos regards. Ensuite, nous avons aussi de la chance de pouvoir travailler sur de l'interdisciplinarité. Un certain moment dans l'institution, pouvoir mettre tous les stagiaires de cette institution à travailler sur un dossier patient. Ça prend beaucoup de temps, on le fait sur notre temps. On n'a pas forcément beaucoup de moyens, ce n'est pas toujours une question de moyens, mais parfois une question de volonté. Et on arrive à faire travailler sur une journée et demie tous les stagiaires de l'institution présents le jour J sur un dossier pour voir comment on se parle. Le médecin parle à l'assistante sociale au kiné, et comment ces regards croisés nous permettent toujours de rendre l'humanité aux patients, qu'on soit en gériatrie, qu'on soit en précarité. Je trouve qu'il serait un peu dommage d'attendre la fin de vie pour que l'interdisciplinarité, c'est toujours l'exemple que l'on donne, la fin de vie, qu'on attende la fin de ma vie pour qu'on puisse dire de moi quelque chose ensemble. Voilà.
C'est au premier rang. Charlotte. Non, on a encore un peu de temps. Non, attends, 1h15 le repas.
C'est bon ?
Ça va. Charlotte. Il y a notre collègue du premier rang qui demande la parole depuis très très longtemps. Mais il est trop près, on ne le voit pas.
Non.
Oui.
Je vais
ici,
rapide,
là. Voilà.
Donc, François Prévoto du Clarin. C'était par rapport à la question de l'usage des mots, et je dirais même aussi de la langue, parce que dans nos pratiques, on est franchement souvent confronté à la question de la barrière linguistique, hein, très très souvent autour du tiers du temps d'activité. Et donc, je vous remercierai d'avoir utilisé le mot soin et pas le mot care, enfin l'importation américano-anglaise, ce concept dont on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire qu'on n'est peut-être pas capable de le traduire en français, parce qu'en fait, dans soin, il faudrait qu'il y ait aussi dans la conception. La question de l'accompagnement, la question de l'attention, etc. Mais bon, moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer de l'expliquer justement en français, et donc pas d'utiliser un concept qui vient d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que c'est l'inertie. Ça, c'est pour l'autre intervenant. L'inertie. Je me rappelle, moi, 86, la première mission France de Médecins du Monde, avec Cybèle Bilal, à l'époque, assistante sociale, on pointe assez rapidement le fait que la nécessité que finalement l'accès à l'assurance maladie en préalable, ça soit, c'est le nœud, c'est le problème fondamental, et il faut 13 ans pour que ça se traduise dans la loi CMU. Je me rappelle aussi qu'en 91 ou 92, dans une revue qui est maintenant disparue, qui s'appelait la revue Agora, j'ai écrit un article qui s'appelait à l'époque « Faut-il débaptiser l'assistance publique ?» Donc, les problèmes sont, une certaine inertie, une certaine durée. On a des difficultés à être résolus. Et je pense qu'on est obligé de prendre acte du fait que les transformations ne se font pas magiquement.
Voilà, je crois que on va. Voilà, la dernière question alors.
Je voudrais, juste rebondir sur un point par rapport à ce que vous évoquez. Excusez-moi, je suis là. Juste rebondir sur un point. Vous avez raison, le concept de care n'est pas soluble dans le concept d'accompagnement. Ce sont deux notions différentes. Je vais vous prendre un exemple en une phrase, vous allez comprendre. On peut aujourd'hui faire du care sans accompagner.
Alors, on va. Non, il y a encore une question, mais c'est la dernière.
Oui, très vite. Louisa Chevalère, pôle santé publique et communautaire à l'hôpital d'Annecy. Monsieur Moutel Grégoire, vous commencez votre intervention avec trois questions, et notamment celle de la coordination des soins d'une patiente qui vit en hôtel social, atteinte d'un cancer du pancréas et d'un diabète secondaire. Moi, je serais intéressée quand même pour savoir si dans les PASS, comment les PASS interviennent aussi sur les secteurs extra-hospitaliers. Bon, nous avons la chance à Annecy d'avoir une PASS qui sort des murs et qui va justement dans les établissements d'hébergement d'urgence ou qui assure la coordination pour les étrangers malades sur le soin. Donc cette question de coordination, elle a vraiment toute sa place. Parce que le lien avec les services, notamment d'urgence, est très important. Et nous, notre médecin sur Annecy, le docteur Agnoli, avec notre assistante sociale, quand elles ont mis en place la PASS, j'ai bien aimé la manière dont elles l'ont instaurée sur le fait que ce doit être qu'un passage vers le retour, vers le droit commun. Et je serais quand même intéressée vraiment de pouvoir échanger avec d'autres personnes dans la salle, parce que j'ai un peu l'impression que autant de passes, autant de fonctionnements différents, autant de modes d'intervention différents. Et en fait, nous, dans notre établissement, c'est 90% du travail sur l'extérieur, avec aussi les éducateurs de rue, les éducateurs médico-sociaux. Merci.
Merci pour votre intervention. Très rapidement, pour passer la parole à l'orateur suivant. Deux choses, une chose très concrète. Vous l'avez dit, chaque PASS se débrouille ou s'organise, selon le regard qu'on porte, en fonction de son histoire et de ce dont on dispose. Pour la dame dont je vous parle, nous, très concrètement, c'est une dame qui, effectivement, vient à la consultation avec une organisation de coordination qui est faite par l'infirmière de la consultation, avec des... quelque chose qui s'apparenterait à, puisqu'on ne peut rien faire à son domicile, on déplace la patiente du domicile vers la PASS le plus fréquemment possible. La question que vous posez, plus institutionnelle, qui me taraude, sur laquelle je travaille en ce moment, mais il faut peut-être qu'on partage tous ensemble dans les PASS, c'est quel lien les PASS peuvent avoir avec la CHAD, hein, par exemple. C'est une de nos questions. Une des questions qui pourrait être posée, d'ailleurs, on nous dit que l'hospitalisation ne fait pas partie des PASS, mais est-ce que la CHAD en ferait partie? Bon, enfin, voilà, tout dépend si on prend le mot domicile ou si on prend le mot hospitalisation. donc là, vous voyez que derrière les mots se cachent aussi des choses. Voilà, je réponds très rapidement. Après, juste sur les plus institutionnellement, c'est vrai que toutes ces expériences, c'est l'intérêt de la journée d'aujourd'hui. Il faut qu'on les fasse remonter parce que c'est un peu le débat sur les maisons de, vous savez, les maisons de santé aujourd'hui. Un modèle plaqué du haut sera forcément mauvais. Une multi-expérience sera riche et chacun pourra se nourrir de l'expérience de l'autre. Voilà, c'est un peu banal, mais ça mérite d'être dit aussi, quoi. Donc, je profite d'avoir le micro, Janine.
Vas-y,
pour faire la transition,
je t'en prie.
La transition, ça c'est marrant de passer d'orateur à transiteur, je ne sais pas comment on dit. Pour accueillir Marc Grassin. Alors, Marc Grassin est une... comme on dit, une belle personne dans certains domaines, qui est quelqu'un qui est philosophe de formation, qui a toujours eu un regard positivement critique sur les pratiques de soins, qui a, il faut le dire, le recul de 20 ans dans ce domaine-là, parce que je pense que l'expérience est importante, et qui, sans lui faire de publicité, parce que lui ne peut pas le faire, mais moi je le ferai, a commis, avec un de nos collègues, un très beau livre, préfacé par... Didier Sicard, et qui d'ailleurs porte le titre quasiment le titre de l'intervention d'aujourd'hui. C'est pas pour rien, parce que c'est une vraie question qu'on doit traiter, qui fait écho aux propos de Monsieur Lévy. C'est si on fait de l'enseignement de l'éthique, est-ce que c'est pour qu'il soit incarné dans le cœur des gens et dans la pratique clinique, ou est-ce que c'est pour se donner de la bonne conscience ?